Voilà, que Dieu soit béni. On avait dit qu'on allait faire mardi info. C'est ce qu'on va profiter de faire aujourd'hui. Et je pense que on connaît tous mardi info, c'est quoi? C'est interpréter les nouvelles, l'actualité à la lumière de la parole, saisir dans quel temps nous sommes. Est-ce qu'on peut baisser un peu? Saisir dans quel temps nous sommes en fonction des nouvelles. Voilà, le Seigneur, un jour, il a dit à ses apôtres, vous savez voir, en regardant au ciel, dire est-ce qu'il va pleuvoir, quel temps il va faire. Mais sachez aussi interpréter les événements. Voilà, donc le Seigneur nous enseigne aussi à travers les événements qui ont cours dans le monde. Et je pense que l'événement le plus important actuellement, c'est... Sans conteste, Donald Trump, la venue de cet homme trouble-fête, donc qui suscite tant de discours de part et d'autre. Voilà. Première observation que nous pouvons faire par rapport à Donald Trump, c'est la surprise. Donc ça, c'est inévitable. Donc nous n'allons pas chercher à parler des choses qu'on ne saisit pas, on va se limiter à parler des choses que tous, des choses factuelles. Donc les faits, c'est ça que nous allons analyser. Il y a la surprise, Donald Trump prend le pouvoir et ça nous rappelle le psaume 33, 10, que celui qui a le micro nous lise ça. Le psaume 33, 10. Psaume 33, 10.
L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples.
Voilà. L'Éternel renverse le dessein des nations. Il anéantit le projet des peuples. Et une des plus grandes joies que personnellement j'ai ressenti lorsque Trump est devenu président, c'est de voir l'accomplissement de Psaume 33:10. De se rendre compte, vous savez, il y a des versets qui sont là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous croyons. Nous croyons, puisque c'est écrit. Mais réaliser le verset comme si on le touchait physiquement, c'est ce qui s'est passé. Parce que quand on dit qu'il renverse les desseins des nations, nous sommes de ceux-là qui attendons depuis un certain temps que certains dictateurs quittent le pouvoir dans des pays d'Afrique. Nous attendons des changements même parfois en Europe aussi. Et nous avons pris l'habitude de voir que quand les francs-maçons, quand certains pays ont décidé quelque chose, ça finit toujours par s'accomplir. Donc quand on voit bien les Illuminati, les gens qui ont le pouvoir dans ce monde, les gens qui sont dans le showbiz, les patrons des grandes entreprises, quand ils décident quelque chose, c'est ça qui s'accomplit. Et nous avons tous bien vu qu'ils avaient décidé que c'était Hillary Clinton qui devait passer. Donc ils avaient vraiment décidé, parce que toute la presse occidentale, à 95%, était contre Donald Trump. Les politiciens de tous bords, même de son propre camp, étaient contre lui. Et sans compter les étrangers, hein, là on est aux États-Unis, mais à l'étranger, tous les politiciens étaient contre lui. Rares étaient ceux qui pariaient sur lui. Donc, il y a eu des scandales avec des vidéos, avec des anciennes photos. Malgré tout ce qu'ils ont fait pour qu'il ne passe pas, il est passé. Donc on a vu ce verset-là, on a pu le toucher à la main. Dieu renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Ça fait du bien de réaliser que la prière, par exemple, d'un chrétien, même s'il est tout seul, ça peut anéantir les projets des peuples. Effectivement, les projets des peuples, c'était que Hillary soit la présidente. C'était le projet des peuples et le projet aussi des faux prophètes. Bon, on en profite pour rigoler parce qu'il y a eu des faux prophètes, notamment Tibi Joshua, qui a prophétisé que c'était Hillary qui allait devenir présidente. Donc Dieu en a profité pour donner des baffes à ces prophètes, à ces faux prophètes-là. Il y a celui qui avait prophétisé ça depuis longtemps, Bernard Blessing, peut-être qu'il s'est dit, « Ah, cette fois-ci, je tiens le bon bout. Quand il arrive à passer, je vais refaire le tour, comme Paul, des églises où j'ai prophétisé que ce serait une femme, mais ça n'a pas tombé, ça n'a pas marché. Hillary n'est pas passé. » Donc nous sommes heureux. Je sais que quand je dis nous sommes heureux, il y a des gens qui sont un peu choqués. Bon, je vais dire, je suis heureux que Donald Trump passe parce que, à travers son passage, Dieu a anéanti les projets. Donc, ce verset s'est accompli devant mes yeux. Donc, ça fait toujours du bien de voir la parole s'accomplir. Comme quand Siméon avait tenu l'enfant Jésus. Bon, il y a une coïncidence, il tient l'enfant encore là. Il ne s'agit pas du même Siméon. Mais, donc quand il a tenu, enfin, il a dit, « Ah, maintenant je peux m'en aller en paix parce que je touche la promesse de Dieu. Je touche. » Alors, quand j'ai vu Donald Trump passer, j'ai dit, « Mais nos prières sont importantes. » Donc, nos prières, je pense que peu sont ceux qui avaient prié contre Hillary, mais le peu là qui avait eu ce courage-là ont vu leurs prières exaucées. Parce que qu'est-ce qu'eux, ils voulaient? Ils voulaient faire passer Hillary Clinton pour créer la Troisième Guerre mondiale, précipiter l'ordre, le nouvel ordre mondial, et attaquer la Russie en guerre et créer une Troisième Guerre mondiale, mettre le désordre dans le monde et puis s'installer l'impie. On sait que l'impie s'installera, mais Dieu a décidé que ce n'était pas encore le moment. Donc, il a fait passer cet homme dont on dit tellement de mal que même certains chrétiens y croient. C'est ça le problème. C'est pourquoi on en parle aussi. Donc, on dit tellement de mal, de fausseté, que finalement, même des chrétiens se disent, « Oui, mais c'est un mauvais. » Mais il est mauvais en quoi? Donc, nous soyons dans les faits. Donc, c'est pourquoi on est là pour en discuter. Si quelqu'un pense que, « Ah, mais non, c'est un mauvais, il a fait ceci, ceci. » Il faut le dire, il faut qu'on... Mais nous, ce que nous voyons, les faits nous montrent que c'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour anéantir les projets des méchants. C'est vrai qu'on me dira, Dieu utilise ce qu'il veut. Oui, comme il a utilisé Cyrus autrefois, il a utilisé Nebuchadnezzar autrefois. Là, il a utilisé Donald Trump pour renverser les projets des peuples. Donc, c'est ce que nous avons vu. C'est vraiment... agréable de voir la promesse du Seigneur s'accomplir et de voir comment il y a eu des gens qui avaient déjà préparé des félicitations à faire à Hillary, notamment notre président avait déjà préparé son discours de félicitations, plusieurs autres, et ils ont dû corriger, déchirer leur discours, faire un autre discours. Je pense que même lui-même, tel qu'on a les infos, lui-même Donald Trump ne s'y attendait pas. C'est vraiment la surprise de Dieu. Et en même temps, c'est un grand encouragement pour les enfants de Dieu de savoir que Dieu, effectivement, peut défaire le Conseil des Nations. Il peut anéantir les projets des méchants. Voilà. Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu l'a utilisé juste pour le psaume 33:10? Et le reste, il peut être maintenant en dehors de la volonté de Dieu, peut-être. Parce qu'il a utilisé juste pour, comme tu as dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Comme les gens étaient tellement pour Hillary, Dieu a prouvé le contraire. Maintenant, le reste de Trump, peut-être, ça sera plus quelqu'un qui sera conduit par Dieu. Il a juste confondu les gens pour cet acte-là.
Oui, mais le reste, là, c'est quoi?
De sa vie présidentielle, de son mandat, peut-être, il sera...
Ah, on est dans les peut-être, hein?
Voilà.
Ah, oui, là, on ne sait pas, donc le reste, Donc, on ne sait pas comment c'est qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été utilisé pour confondre les desseins des nations. Et ça continue, hein, parce qu'on voit que, pour une fois, nous avons quand même un politicien qui applique ce qu'il a promis. Il avait dit, quand il va prendre le pouvoir, il va serrer du côté immigration. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, ce qu'il a promis, il applique. Il y a des gens qui diront, mais c'est mauvais ce qu'il fait. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Mais du moins, il applique ce qu'il a promis. On est habitué avec nos politiciens à ce qu'ils appliquent jamais ce qu'ils ont promis. Dès qu'ils prennent le pouvoir, ils changent. C'est pourquoi, justement, les gens ne veulent plus de François Hollande, parce qu'il n'a pas pratiqué, il n'a pas appliqué ce qu'il avait promis. Donc, lui, il prend le pouvoir, il applique. Il prend des mesures par rapport à ce qu'il avait dit pendant les élections. Maintenant, les gens qui disaient, mais il le dit juste pour passer aux élections, après il fera autre chose. Ils sont confondus parce qu'il a dit, je veux construire le mur, je vais continuer le mur. Eh bien, il compte le faire. Il avait dit qu'il allait serrer l'immigration. Eh bien, première chose qu'il a faite, décret contre, par rapport à l'immigration. Donc, il est en train d'appliquer ce qu'il avait promis. Maintenant, qu'on dise que c'est mauvais ce qu'il fait ou pas, mais du moins, il est sincère dans sa démarche. J'avais promis telle chose, je suis en train de pratiquer cela. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est un homme bon, mais nous attestons à travers les faits. Je dis bien les faits. Les faits sont là qui montrent qu'il n'est pas pareil que les autres. Voilà. Il n'est pas pareil que les autres parce que les autres nous avaient habitués à ne jamais accomplir ce qu'ils promettaient, alors que lui, il accomplit cela. Et les faits aussi nous montrent que si tous ces gens-là le critiquent ainsi, alors que nous connaissons ces gens-là, nous connaissons comment ils sont attachés à tout ce qui est généralisation de l'homosexualité, à tout ce qui est esclavage, argent, illuminati, franc-maçon, et tous ces gens-là sont contre lui, ça montre qu'il y a un problème. Et on voit curieusement aussi, les mêmes personnes sont contre Poutine. Or, les faits sont là aussi qui montrent que depuis que Poutine est entré dans l'affaire de la Syrie, eh bien, la guerre aussi s'est arrêtée. Donc finalement, les gens sont beaucoup plus tranquilles que quand c'était géré, même pas, presque géré par les Occidentaux qui mettaient le désordre en supportant des milices divers pour amener les Arabes à s'entretuer entre eux. Mais depuis que la Russie a pris les choses en charge, la paix est revenue, les rebelles ont été vaincus, la paix est revenue, les gens commencent à retourner chez eux. Donc les choses sont concrètes, ce n'est pas du blablabla comme font nos politiciens. Et ici, de l'Occident, ils vont te dire au téléphone, allez, soulevez-vous, marchez. Quand vous allez vous soulever, nous, on viendra vous soutenir. Eh bien, les gens se sont soulevés en Syrie. Ils ont attendu le soutien de l'Occident. Rien du tout. Donc, on les a massacrés comme il faut. Et Poutine, lui, pas du tout. Il vient, il soutient clairement l'État qui est en place. Il finit la guerre. Et les choses sont en train d'être reconstruites. Voilà. Donc, c'est ça la différence. On voit qu'il y a un camp de gens qui sont forts côté parole, mensongères, fort côté parole, comment dire, langage fourbe, comme on disait les Indiens autrefois, disaient les Occidentaux avaient une langue fourchue. C'est ça. Ils sont forts côté langue fourchue, mais de l'autre côté, nous avons des gens comme Vladimir Poutine, comme Donald Trump. On peut dire ce qu'on veut d'eux, mais ils appliquent ce qu'ils disent. Et quand ils s'engagent dans un projet, ils s'engagent clairement. Ils ne s'engagent pas à visage masqué. Ils s'engagent clairement. Ils le disent aussi clairement. Je veux faire ceci. Et ils le font. C'est clair. Maintenant qu'on juge que ce qui est fait n'est pas bon ou bon, du moins on doit reconnaître que c'est des gens qui respectent ce qu'ils promettent. Et les critiques qui sont là contre eux montrent vraiment qu'il y a un souci pour que il suscite tant de critiques de la part de ceux que nous connaissons comme étant les pires de cet univers, de ce monde, les pires dirigeants de ce monde, ça montre que ces gens-là ont un aspect positif qui est combattu par les mauvais. Et oui.
Il soutient aussi Israël.
Oui, il soutient Israël. Voilà, il y a encore un autre détail. Mais il soutient aussi Israël, pas bêtement, dans la mesure. Parce que dernièrement, il vient de dire à Israël de faire attention dans sa façon de... Voilà, ce n'est pas un soutien aveugle, c'est un soutien logique. Donc, ce que nous n'avions pas avec, quand on regarde les autres, là, les François Hollande, tout ça, ils sont les premiers à faire des réunions contre Israël. On se souvient d'Obama, quand il était au pouvoir, il était tout le temps contre Israël. Donc là, Donald Trump prend le pouvoir, il est pour Israël. Donc on voit quand même qu'il y a des différences. On a beau dire qu'il est juste utilisé, mais c'est curieux, mais il est utilisé pour faire quand même des choses positives. Et finalement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un président ne pas prendre son salaire? Donc lui, c'est un président qui décide de ne pas prendre son salaire. Donc c'est extraordinaire. Son gendre, je crois aussi, a décidé de ne pas prendre son salaire. Donc c'est des gens bien-aimés, ce n'est pas un gouvernement de politiciens carriéristes. Vous savez, en France, il y a des gens, depuis l'âge de 20 ans, il est dans la politique. D'abord à l'université. Donc il vit de la politique. Il vit des circuits politiques. Mais eux, c'est des milliardaires, comme celui qui est ministre des Affaires étrangères. Donc, il était président d'Exxon. Exxon, c'est plus grand que Total. Donc, président d'Exxon Mobil depuis des années. C'est un milliardaire. Donc, quand il devient ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui perd en argent. Donc, ce n'est pas des gens qui viennent pour chercher l'argent, comme c'est le cas dans nos gouvernements la plupart du temps, que ce soit en France ou ailleurs. C'est des gens qui perdent. En entrant au gouvernement, financièrement, ils perdent. Donc, on peut supposer qu'ils veulent faire un travail sérieux. On est dans la supposition parce que quand ils deviennent ministres, ils perdent. Ce n'est pas des professionnels de la politique. C'est des gens qui ont un projet. Et leur projet, ils ne se cachent pas comme on le dit. Ils nous voulons que l'Amérique soit grande. Voilà. Ils ne disent pas que nous voulons que l'Amérique soit plus que les autres. Domine les autres. Ils disent, nous voulons que l'Amérique soit grande. Si quelqu'un d'autre veut être grand chez lui, qu'il soit grand. C'est son problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre pays soit grand. Alors que les Illuminati, ceux qui dirigeaient les États-Unis avant, leur projet, c'est quoi? C'est dominer le monde entier. En se servant des armes des États-Unis, en se servant de structures américaines, ils veulent dominer le monde entier. Mais eux, ils disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'Amérique soit grande. Nous ne cherchons pas forcément qu'elle soit la première, mais qu'elle soit grande. Donc nous voulons faire notre maximum pour que l'Amérique soit forte. Mais pas forcément que l'Amérique soit la première. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème à discuter avec la Russie. Et c'est ça qui va éviter pendant un temps la Troisième Guerre mondiale que fomentaient les Hillary Clinton et les Obama. Et en tout cas, leur projet a été... confondu, c'est un encouragement pour nous qui prions de savoir que nos prières, hein, comme c'est écrit dans Jacques 5, la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc même quand nous sommes face à un pays, même quand nous sommes face à des peuples, ayons le courage de prier, d'exposer nos dossiers auprès du Seigneur. Et le Seigneur va agir comme c'est écrit. Il défait le Conseil des Nations. Quand je pense à tous ceux qui avaient prédit, affirmé, les sondages, tout ce qu'on veut, que c'est Hillary qui allait être présidente, quand je pense que même les faux pasteurs avaient prédit cela, donc c'était tous contre un, mais c'est le un qui a gagné. Donc ça nous montre qu'il peut arriver aussi qu'un jour, tout le monde soit contre nous. Ça, ce n'est pas sûr que nous perdions pour autant. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Voilà. Deuxième point qu'on allait traiter, c'est concernant nos propres élections aussi, hein. Donc, on a vu On peut lire Daniel 2, 21. Daniel, celui qui a le micro, nous lisons 2, 21.
Daniel, chapitre 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence.
Voilà. Donc c'est lui qui renverse et... On peut lire ?
Celui qui renverse et établit les rois.
Celui qui renverse et établit les rois. On a lu psaume 33, on a vu comment il défait le conseil des nations. Mais là, on voit un autre verset qui dit que c'est lui qui met les gens comme rois. C'est important, ces passages-là. Et c'est des passages qu'on vient de toucher avec l'élection de Fillon, avec l'élection de Benoît Hamon. C'est des gens qui n'étaient pas attendus à ce niveau-là. Donc, une fois de plus, le projet de la majorité a échoué. Et comme la Bible dit, c'est Dieu qui renverse, c'est Dieu qui établit. Il renverse les rois, il établit. C'est quand même une bonne nouvelle pour nous, les intercesseurs, de savoir que c'est Dieu qui établit. Mais c'est aussi, quelque part, une vérité qui va nous aider à supporter davantage les gens qui sont au pouvoir. Parce qu'on se rend compte que c'est Dieu, même si on savait ça, on savait que c'était écrit comme ça. Mais comme c'était souvent en notre défaveur, on cherchait des excuses pour ne pas obéir à ce passage qui dit « soumettez vos autorités ». Parce qu'en général, les autorités qui passaient, c'était celles que nous ne voulions pas. Donc on cherchait toujours des moyens pour contourner ce passage qui dit « soumettez-vous à vos autorités ». Mais bon, maintenant que c'est des gens qui viennent, qui nous font plaisir, donc rappelons-nous maintenant que nous devions aussi nous soumettre, même quand ça ne nous fera pas plaisir dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous crions haut et fort. C'est Dieu qui les met. Vous voyez, Dieu a confondu. Mais le jour où il va mettre quelqu'un qui ne nous plaît pas à nous, ayons aussi l'humilité d'accepter. Comme là, on est en train de crier haut et fort. Dieu a confondu leur projet. Il a mis François Fillon. Il a mis Benoît Hamon. Et même chez les écologistes, pareil, ils avaient prévu quelqu'un d'autre, mais c'est Yannick Jadot qui a pris le pouvoir. Donc le Seigneur a confondu aussi un grand prophète. Hein. C'est qui le grand prophète que le Seigneur a confondu? Un grand prophète dans le monde. C'est Monsieur les sondages. Hein. Donc le Seigneur a confondu à fond, à tel point que les journaux ne veulent plus dépenser pour payer les instituts de sondage. Les sondages ont diminué. C'est qui va payer un faux sondage? Les gens disent, ah, ça ne marche plus, on ne paye plus. Donc, c'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Il dit ça dans Ésaïe 43. On va lire Ésaïe 43. Ésaïe 43. Voilà, verset 9 jusqu'au verset 12.
Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise « c'est vrai ». Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu.
Voilà. Donc Dieu dit, mais qu'on rassemble tout le monde, qu'on vérifie toutes les prédictions des gens et qu'on compare avec mes prédictions à moi. Qui est-ce qui se réalise? Donc aujourd'hui, les sondages aussi sont dans ce piège-là. Ils ne se sont pas réalisés. Nous voyons bien que Dieu seul est Dieu. C'est vraiment encourageant de réaliser. Parce que vous savez, quand les gens suivent les sondages, c'était devenu pratiquement mathématique. Ça va s'accomplir comme ça. Mais aujourd'hui, nous réalisons que non, ce n'est pas si mathématique que ça. C'est des probabilités. Et dans les probabilités, il n'y a pas l'assurance totale. Donc, on peut dire qu'un événement est probable à 90%, mais ça va tomber dans les 10% là et ça ne s'accomplit pas. Donc, réellement, qui est Dieu? C'est celui qui annonce et ça se passe à 100%. Et c'est ce qu'il dit. Moi, j'annonce et ça s'accomplit à 100%. Mais vous, vous annoncez, regardez ce qui se passe. Bien-aimés, ces événements de ces derniers temps nous ont boostés, comme on dit dans le monde, nous ont fait comprendre que le pouvoir se trouve du côté des enfants de Dieu. C'est vraiment ça. Le pouvoir se trouve du côté du Seigneur. Parce que même les sondages, ce n'est pas les sondages d'un seul journal, donc les sondages de plusieurs instituts qui se trompent comme ça. Donc on voit bien. Et vous savez, les sondages, ce n'est pas seulement la prophétie. On demande aux gens, tu comptes voter qui? Malgré tout, ça se trompe quand même. Donc c'est là pour nous dire, attention, Dieu seul est Dieu. Faisons-lui confiance. C'est très important d'analyser tout ce qui se passe et de savoir prendre des décisions. Moi, désormais, je vais faire confiance en Dieu. Moi, désormais, je vais prier l'Éternel. S'il a pu mettre des gens comme Benoît Hamon, des gens comme François Fillon, qu'on n'attendait pas, s'il a fait échouer les sondages, Dieu est réellement tout-puissant. Voilà, donc il y a un autre sujet du moment. Nous pensons à ce petit-là qui a été violenté dans la région parisienne. Et nous voyons comment, en réalité, finalement, les humains sont limités. Hein. Les humains sont limités. Soit ils ont beaucoup de pouvoir, ils en abusent. Soit ils manquent de pouvoir et c'est le désordre. Si on prend la photo, les photos des bâtiments en France et qu'on montre dans certains pays comme Afghanistan ou, je ne sais pas, Somalie, les gens vont dire, mais c'est extraordinaire, c'est beau, tout est bien là-bas. Mais quand quelqu'un vit dans ces quartiers, ce qu'on appelle les cités, les quartiers, malgré la beauté des bâtiments, la réalité est différente. Ça nous apprend cette leçon-là, c'est que le paradis ne se trouve pas sur terre. Parce que si on prend ces bâtiments-là en photo et qu'on montre à quelqu'un qui est en Somalie ou en Afghanistan, il va dire, oh, mais ils sont bien. Mais vous voyez, des choses même qui n'ont pas lieu là-bas, mais c'est ça que ça se passe ici. Et ce qui a été cruel, que la commission de l'IGPN, donc la police des polices, puisse dire que c'est un accident, ce viol-là est un accident, c'est encore plus cruel que l'acte lui-même. Donc là, c'est considérer les gens comme des bêtes. Donc, c'est comment quelque chose comme ça peut se faire par accident. Et le dire tranquillement, ça montre qu'on sous-estime les gens, on les néglige. Et c'est quelque chose qui a fâché beaucoup. Nous ne sommes pas contre les violences qui ont cours, mais nous ne sommes pas plutôt pour les violences qui ont cours. Mais nous voulons dire qu'il ne faut pas non plus exagérer. Et toujours dans l'esprit d'appeler le mal bien. Et le bien mal. C'est ça la réalité. Les hommes aiment appeler le mal bien et le bien mal, et ça finit toujours pas bien du tout. Et voilà, nous ne pouvons que prier pour que tout cela se calme et que surtout les gens reconnaissent que le paradis n'est pas sur terre. Ça, c'est très important. Et nous allons passer à quelques actualités aussi chrétiennes. Je pense que vous avez appris. Eddie Long est mort, le pasteur sapeur là, comme des États-Unis qui avait une église de 20 000 personnes et puis qui a eu les pasteurs qui prêchent l'argent, la prospérité, tout ça. Et bon, donc il y a plusieurs versions, mais la version la plus plausible, c'est qu'il est mort de cancer. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort de quelqu'un, mais nous voulons dire que Dieu confond en les sages dans leur ruse. C'est des gens qui prêchent la santé, la prospérité, l'argent, et finalement, ils quittent ce monde en laissant des millions et en laissant aussi des problèmes. C'est pour nous dire, bien-aimés, ce que le Seigneur a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. C'est des gens qui ont des jets privés, c'est des gens qui ont des mansions, c'est des châteaux. Donc ils ont des châteaux comme maison. Mais voilà, ils ont choisi l'argent plutôt que le Seigneur lui-même. Pendant un temps, tu peux paraître fort, mais comme c'est écrit dans Nombre 32, 23, ton péché te retrouvera. Donc c'est, bien-aimés, choisissons le Seigneur. Tu as beau avoir tout ce que tu veux, il y a un jour où notre corps nous lâche. Et quand ton corps te lâche, tu vas te retrouver où? Donc il faut préparer ce temps-là. On connaît la parabole du riche, de l'intendant du riche. Sachant qu'il allait être dépossédé de ses fonctions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé son avenir. Il a dit, toi qui avais la dette, allez, j'annule ta dette. Je diminue ta dette. Il a dit, le jour où on va me démettre, ces gens-là m'accueilleront. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous devons garder les yeux fixés sur l'éternité parce que ces gens-là avaient tout ce qu'un humain peut convoiter. Tout, tout. Un grand public qui les suivait. Dernièrement, il avait même été, consacré roi. Donc on l'avait porté sur son trône par 4 personnes. On l'a traîné dans l'église comme ça. On l'a consacré en quelque sorte roi parmi les évangéliques. Mais tout ça, ça va te servir à quoi le jour où tu meurs, où tu perds tout, toute ta force? Le monsieur est devenu maigre, lui qui faisait le bodybuilding. Donc il est devenu mince, maigre, plus maigre que nous tous de loin. Et bien aimé, c'est ce qui est étonnant. Vous savez, beaucoup de gens disent, je vais faire le mal, vers la fin, je vais me repentir. Mais j'ai l'impression que, après c'est trop tard, hein, parce que ces gens-là, malgré le fait qu'il était devenu mince, comme une tige, mais il ne s'est quand même pas repenti. Il continue à dire que ce n'était pas la maladie. Il continue à dire que c'était un régime qu'il faisait, un régime végan. Donc il mangeait que les légumes, c'est pourquoi il maigrissait. Et il conseillait même aux gens de l'église, vous allez voir si vous suivez ces régimes-là, vous aussi, vous allez vous sentir puissant, vous allez vous sentir bien. Alors on se pose la question, on dit, mais comment quelqu'un qui est mourant n'en profite pas pour se repentir? C'est là qu'on se rend compte la technique de se dire que je me repentirai à la fin est une erreur. Parce que sinon, cet homme-là va se repentir. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous supposons. Il se passe que l'honneur, l'orgueil de la vie est tellement grand que ces gens-là, même minces comme ça, même très malades, ils ne s'imaginent pas s'humilier devant les petits que nous sommes pour dire « j'ai fauté, je demande pardon ». Leur orgueil est devenu très, très grand. Et c'est ça que nous devons éviter, bien-aimés. Nous ne devons pas nous dire « ah, je veux me repentir, ça ira, ah, on ne sait pas ». On ne sait pas comment ton cœur va devenir orgueilleux. On ne sait pas. On n'a pas vu le Michael Jackson se repentir. On n'a pas vu le prince se repentir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Ils deviennent tellement orgueilleux que c'est très difficile. Donc, ne souhaitons pas vivre cela, dire, bon, je verrai après, je me repentirai à la fin. Tu ne sais pas comment ton cœur va s'endurcir. Tu ne sais pas. Et le cœur était endurci jusqu'au bout. Il ne s'est pas repenti. Et jusqu'à vanter son régime alors que c'était la maladie. Donc, bien-aimés, voilà, il y a tout ça que nous avions partagé et ça fait très, très mal. Et tout ça nous appelle à quelque chose, nous appelle à prier pour que Dieu suscite de vrais chrétiens. Oui, oui, nous devons prier afin que Dieu suscite de vrais chrétiens.
Oui, pasteur, j'en viens à la situation des personnes qui, dit-on, ont vendu leur âme au diable. Est-ce que ces personnes-là arrivent quelquefois à se repentir? En fait, je ne connais pas la situation. Hein.
Oui.
J'ai l'impression. Ah bon, hein?
Il y a certains qui arrivent à se repentir. Mais, comme on vient de le dire, la configuration n'est pas la même. Quelqu'un qui a 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, a vendu son âme au diable. Il n'a pas été au contact des choses de Dieu. Il a fait dans un contexte ne connaissant pas beaucoup de choses. Et un jour, on l'éclaire. Il se dit, oh, mais je croyais que c'était le diable qui était le plus fort. Mais c'est Dieu. Et c'est que des gens comme ça se repentent. Mais là, nous sommes dans les configurations où ces gens-là ont été imbibés dans l'orgueil. Ils voient tout et ils ont même négligé Dieu. Ils doivent considérer que Dieu ne donne pas rapidement. C'est Satan qui donne vite. Ils ont toute une construction dans l'orgueil, dans le succès, dont ils ne veulent pas se démettre. Donc, ils ont une construction dans ça. C'est ce qu'on est en train de dire. Tu ne sais pas quel succès tu auras. Est-ce que ça te permettra de faire marche arrière? C'est ça le problème. On a vu quelqu'un comme Samuel Doe, le président de Liberia. Les rebelles entouraient la ville. Les Américains lui disent, on va te sortir. Tu as perdu le pays. Les rebelles entourent la ville. Viens avec nous aux États-Unis. Samuel Doe a refusé. C'est-à-dire qu'il ne se voyait pas être autre chose que président du Liberia. Donc le degré était vraiment, c'était monté fort. C'est ainsi qu'il y a des gens qui atteignent un degré d'orgueil. Donc ils ne se voient pas autre chose qu'une star. Ils ne se voient pas autre chose que quelqu'un qu'on doit applaudir. Et donc arrivé au moment de se repentir, se dit, oh mais je vais devenir comme tout le monde. Ah non, 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 non. Ça nous rappelle, voilà, le jeune homme riche vend tout et bien, suis-moi. Il se dit, ah, je ne vais pas devenir comme tout le monde. Et c'est ce que nous devons éviter. Attention, l'orgueil peut nous amener au point où faire marche arrière, ça devient très, très compliqué. Très, très compliqué. Donc, quand on peut se repentir, repentons-nous au nom de Jésus. Donc, il y a aussi ce dossier-là des prières. Les gens, comment ça s'appelle, sozo, donc des prières d'hypnose qu'on voit à la mode aux États-Unis. Donc tu as des problèmes, on te met dans l'hypnose et tu vas faire marche arrière, tu vas te rappeler, c'est ton cousin autrefois qui t'avait giflé, c'est à cause de ça que tu as eu tel choc. Et c'est une sorte de, on appelle ça en psychologie, la régression, thérapie par la régression en psychiatrie. Donc on te ramène à ton passé. Et tu vois des choses, après on te dit, demande pardon à la personne qui t'avait fait du mal, comme ça. Et c'est quelque chose qui est à la mode vraiment aux États-Unis. Et beaucoup de gens font ça. Et bien-aimés, soyons attentifs, faisons attention. Les histoires de voyager, parce que ça, j'en parle aussi parce que c'est dans le même esprit. Aux États-Unis et en Afrique, beaucoup de pasteurs disent maintenant qu'ils sortent de leur corps pour aller guérir les gens, pour faire des choses. Je dis, mais si les sorciers sont de leur corps, pourquoi pas nous? Mais sauf que c'est interdit dans la parole de Dieu. C'est interdit, mais c'est le même esprit, hypnose, on va faire marche arrière. Et il y a des gens qui, en faisant marche arrière, ils se voient au XVIIIe siècle, devant un château. Donc, bien-aimés, donc c'est ce qui se passe. Vous voyez, toutes ces confusions sont dues au fait que il y a de moins en moins de vrais chrétiens. C'est dû à ça. De moins en moins de vrais chrétiens. Le vrai chrétien accepte la simplicité de l'évangile. Et ce n'est pas facile dans un temps où tout le monde veut impressionner de voir la simplicité. Ce n'est pas facile. C'est une exhortation à la simplicité. Parce que vous et moi, nous sommes en train de nous dire, mais comment les gens peuvent accepter de telles choses? comme on a vu dernièrement, un pasteur qui pompe l'insecticide aux gens pour les guérir. L'insecticide pour tuer les mouches. Lui, il pompe ça sur les visages des gens. Vous vous dites, mais c'est absurde ça, comment ? Mais oui, on y arrive à cause de quoi ? Les gens là vont dire, mais moi j'ai été guéri. On y arrive comment ? La convoitise. Je me souviens d'un ami qui était entré dans une secte, et quand on s'est retrouvé, moi j'avais appris ça, on était ensemble au Maroc, j'avais appris qu'il était entré dans cette secte. Ça m'avait touché parce que c'est lui qui m'avait amené un peu sur le chemin de la vérité aussi. Et quand on se retrouve, je lui dis, mais comment tu t'es retrouvé là-bas ? Il m'a dit, tu sais, notre bébé ne faisait que tomber malade, On cherchait la solution pour notre bébé. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Parce que je sais que cet ami-là ne pouvait pas tomber dans cette secte-là. J'ai dit, mais comment il y est arrivé ? Une secte qu'on appelle SIFMC, combat spirituel. J'ai dit, mais comment cet homme-là peut y arriver ? Il m'a dit, on cherchait la solution. Voilà, bien-aimé, comment on y arrive à ce qu'on te pompe l'insecticide ? Parce que tu cherches la solution. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour le mariage. Donc on va lui pomper l'insecticide, comme ça il a... Mais c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Le pasteur lui-même dit, le faux pasteur là, il dit officiellement, dans ma réunion, je ne veux que les jeunes femmes. Je veux prier pour leur mariage. Et la réunion remplie de jeunes femmes, on va prier pour leur mariage. Donc des gens comme ça, est-ce que vous pensez qu'ils vont résister sur leur pompe l'insecticide ? On dit non. Ils vont dire amen. Parce qu'il y a la convoitise. La convoitise, c'est quelque chose de dangereux. On te dit, si tu fais le sozo, là, donc l'hypnose, là, tu vas être libéré, tu vas être délivré. C'est le chemin de la délivrance. C'est le chemin. Donc les gens disent, ah, je vais entrer dans le sozo. Donc, ils ont oublié. Mais bien sûr, bien-aimés, ils ont des stratégies. Ils disent, mais sozo, c'est en grec, ça, c'est dans la Bible. Le mot est cité 110 fois. Mais est-ce que c'est cité dans ce contexte-là d'hypnose ? Non. Donc, ils vont essayer de bricoler pour que tu acceptes. Mais bien-aimés, pourquoi les gens acceptent ? Parce qu'ils ont oublié la simplicité dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est en mon nom qu'on chassera les démons. Au nom de Jésus, tout simplement. Vous savez, il y a des gens pour qui on prie, à la fin ils disent, ah, pasteur, c'est fini. Parce que dans sa tête, il pensait qu'on allait sauter, toucher le plafond, descendre. Donc maintenant on prie, il dit, oh, c'est fini. Donc parce qu'il n'a pas senti quelque chose. C'est ça qui tue. C'est comme ça que les gens en arrivent à accepter l'insecticide. Une fois même, j'étais parti avec une sœur à l'hôpital. Et je prie pour le malade. Le malade m'a dit, mais pasteur, mais ici à Rouen, on dit de toi que tu pries seulement petit. Donc le malade, il était désespéré. Que le pasteur fasse même 30 minutes. Moi, je n'ai pas fait même 15 minutes. Et donc, à la fin, ah, moi, j'avais appris que tu priais pas long. Tu pries. Donc, il voulait que je prie en longueur. Donc, les gens ont perdu la foi en Dieu. Bien aimé, quand Jésus faisait ses miracles, il a fait des trucs en longueur. Quand Pierre dit à Aîné, qui était paralytique, lève-toi, est-ce qu'il a fait des trucs en longueur ? Non. Et quand il fallait faire la longueur, il faisait. Mais ce n'est pas des techniques. Et c'est à cause de ces techniques qu'on va se retrouver dans des problèmes comme ça. Et bien aimé, nous devons prier qu'il y ait des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Donc prions le Seigneur, que le Seigneur suscite des vrais chrétiens qui vont s'attacher à la simplicité. Parce que c'est la simplicité qui sauve. C'est la simplicité qui nous amènera au paradis. Et prions que la convoitise cesse. Donc nous allons prier. Je ne sais pas s'il y a des questions, puisque les sujets que j'avais préparés sont finis. Donc, prions, parce que le problème, c'est ça, c'est la convoitise. Le problème, c'est l'extraordinaire, la volonté de l'extraordinaire. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Mais tu as bien dit manifestation de qui ? du Saint-Esprit. Mais laisse le Saint-Esprit se manifester. Comment toi tu veux que nous on manifeste le Saint-Esprit? C'est ça. Mais chez vous, il n'y a pas les manifestations du Saint-Esprit. Mais c'est les manifestations de qui? Du Saint-Esprit. Mais qui se manifeste? Ce n'est pas à nous de provoquer ces manifestations-là. Oui.
Je crois aussi, l'un des problèmes, c'est que l'homme ne cherche pas réellement Dieu. En fait, le chrétien ne cherche pas Dieu. C'est que si nous cherchions réellement Dieu, je crois qu'on ne serait pas ballotté à ces vents de doctrine-là. On serait vraiment à l'abri de notre Père.
Amen.
Et on se souvient de l'histoire du fils prodigue. Hein. Il avait dit, je vais vers mon Père. Donc, chercher à retrouver l'intimité du Père, tout en sachant que dans la maison du Père, il y a du pain. Mais voilà. La priorité, ce n'est pas le pain, mais c'est retrouver son Père. Donc, que le Seigneur nous aide dans cette voie.
Amen.
Oui, j'ai discuté avec une dame dernièrement qui revenait du Gabon. Elle me dit qu'elle est dans une assemblée où elle avait constaté justement que le pasteur, à chaque fois, à la fin des cultes, c'est comme s'il veut toujours dire, voilà, l'esprit me dit qu'il y aura un accident à tel endroit, on va prier pour ça. Moi, je lui ai dit que si c'est vraiment à chaque fois, ça fait bizarre aussi. Bon, après, elle m'a dit que pour les délivrances, ils ont aussi une cellule. Il y a une dame, quand le pasteur ne peut pas faire les délivrances, il dit d'aller chez la dame. Et la dame, elle dit à chaque fois, genre, je vois ci dans ta vie, je vois ça, on va prier pour ça, pour la délivrance. Moi, je lui ai dit, bon, est-ce que c'est pas... Bon, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas de la voyance à chaque fois qu'elle voit des choses dans
oui,
la vie?
Quand, comme tu dis, à chaque fois, là, ça devient de la voyance. Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle parole de connaissance. Mais quand ça devient tout le temps comme un système, ça devient de la voyance. Et le Seigneur a dit, on chassera au nom de Jésus. Au nom de... Donc, prions bien aimés que le Seigneur nous demande, nous soyons attachés à Jésus. C'est ça qui est important, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Oui, oui.
En fait, pour revenir à ce que tu disais juste avant, en parlant des manifestations, tout ça, qu'est-ce qu'on peut répondre concrètement à une personne qui dit que, voilà, comme il ne semble pas y avoir de manifestation de l'esprit, tout ça, dans l'assemblée, il n'y a pas Dieu. Du coup, est-ce qu'on la conforte dans son idée de partir, chercher ce qu'elle cherche, ou on lui dit que...
J'ai pas compris.
En fait, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui, voilà, qui voit qu'il n'y a pas les manifestations de l'esprit, tout ça, dans l'assemblée? Est-ce qu'on la conforte, du coup, dans son idée de partir chercher ce qu'elle cherche? Ou...
On ne la conforte dans rien. On lui pose la question qu'elle se cherche. Si elle cherche les manifestations, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais nous, nous cherchons Dieu.
Oui, voilà. Si elle dit clairement que c'est ça qu'elle veut, mais que...
On dit qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais nous, nous cherchons Dieu. Voilà. Toi, tu ne peux pas l'encourager à aller dans le mal. Oui. Tu dis, fais ce que tu as à faire, mais nous, nous cherchons le Seigneur. C'est ça. Ok. On va prier que le Seigneur nous enlève la convoitise et nous enlève la recherche d'autre chose que lui-même. Nous devons chercher, comme c'est écrit, chercher d'abord le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à chercher d'abord ton royaume, le royaume des cieux. Au nom de Jésus, que nous cherchons d'abord ton royaume. Aide-nous, Seigneur, à chercher d'abord ton royaume, à ne pas nous mêler des choses qui nous dépassent, à ne pas entrer dans la convoitise de l'extraordinaire, Seigneur. La convoitise des choses élevées. Comme c'est écrit dans Romains 12, soyez attirés par ce qui est humble, pas par ce qui est élevé, Seigneur. Nous t'en prions, manifeste-toi au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer plus que tout, à être attaché à ta parole. Voilà maintenant que les gens en sont arrivés à recevoir de l'insecticide, à faire de l'hypnose, parce qu'ils veulent à tout prix les choses extraordinaires. Ils veulent à tout prix les méthodes diaboliques qui vont satisfaire la chair. Aide-nous, Seigneur, à accepter la simplicité de ton action. Tout en étant puissant, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu des miracles. Nous ne sommes pas en train de dire que tu es faible. Tu es au contraire tout puissant. Mais tu es souverain et tu fais comme toi tu veux, Seigneur. Tu nous demandes à aspirer aux dons spirituels, à aspirer aux miracles, mais c'est toi qui les accomplis. Que nous continuons à aspirer aux miracles, Seigneur, et qu'on te laisse les accomplir. Qu'on ne mette pas, Seigneur, la charrue avant le bœuf, Seigneur. Qu'on laisse le Saint-Esprit au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. Seigneur, nous venons prier particulièrement pour la Normandie. Que tu suscites, Seigneur, des véritables chrétiens qui vont te servir en esprit, en vérité, qui vont être attachés à la Bible, ta parole, et qui vont être attachés à Jésus comme le seul sauveur et Seigneur, notre pasteur, notre modèle, c'est lui, notre maître. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi. Que nous puissions, Seigneur, apprendre à te laisser faire. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ce temps de partage. Nous te confions, Seigneur, la suite, le mardi prochain, par rapport à Béréen l'explorateur, que tu nous conduises dans toute la vérité et que tout soit fait pour ta gloire dans nos vies. Suscite une nouvelle génération de chrétiens qui vont être comme Josué, Caleb, David, Paul, Jean-Jacques, et qui vont retrouver la simplicité et la puissance de l'évangile véritable. Car cette génération en a besoin. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.